Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Et ce mois-ci, c'est pas Hervé, mais Mathieu qui va reprendre le micro pour faire bouléguer les connos. Et aujourd'hui, on va parler climat et COP21 avec Pauline Michard qui est avec nous. Et alors Pauline, je vais commencer par faire un petit point sur le climat quand même, avant de parler de l'historique des négociations. Alors le climat, il y a quand même quelques éléments et quelques chiffres à avoir en tête avant de parler de la COP21. On a comme objectif de maintenir d'ici 2100 le réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés par rapport à la température moyenne de l'ère pré-industrielle. C'est très long et très compliqué, mais concrètement, on va essayer de le décortiquer. L'accélération du gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle, et surtout depuis 50 ans, il se mesure principalement par le CO2 qui représente les trois quarts en fait des émissions de gaz à effet de serre et qui vient notamment de la combustion des énergies fossiles, de la déforestation, de la production industrielle et notamment celle du ciment. Et l'accélération des émissions de CO2, elle est quand même très importante parce que de 1900 à 1950, on avait à peu près 5 milliards de tonnes de CO2 qui étaient rejetées par an. Entre 1950 et 1960, c'est déjà multiplié par deux. Et entre 60 et 80, c'est remultiplié par deux pour arriver aujourd'hui au printemps 2014, à une moyenne de 36 milliards de tonnes, gigatonnes on dit, de CO2 rejetées par an. Et alors que pendant 800 000 ans au précédent, on était à entre 180 et 280 particules de CO2 dans l'air. Et il faut quand même noter que 60% du CO2 mondial, il est produit par la Chine, les États-Unis, l'Europe et l'Inde. Donc, un petit point, c'est que l'effet de serre, c'est quelque chose qui est relativement normal. Ça permet d'avoir une température normale sur la Terre et ça permet la vie sur Terre. Sauf que il y a quand même des petits dérèglements par les activités humaines depuis 200 ans et même très particulièrement depuis 75 ans. Et ça entraîne une hausse des températures. Par exemple, on vous parlait de l'ère pré-industrielle. Et ben, depuis le début de l'ère industrielle sur Terre, on a un réchauffement climatique de 0,85 degrés Celsius. Ça veut dire que quand on parle des 2 degrés, en fait, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus que 1,15 degrés Celsius de budget température avant d'atteindre les 2 degrés. Et surtout, les scientifiques ont pu montrer qu'il y avait une relation très simple entre le réchauffement climatique et la quantité de CO2 émise. Ce qui fait que si on a un budget température, on a donc bien aussi un budget carbone à ne pas dépasser ces 2 degrés Celsius. Et en réalité, quelque chose est assez inquiétant, c'est que selon différents scientifiques qui ont pu être consultés, il faudrait une rupture du système d'ici 2020 à 2042, selon une partie des scientifiques, pour inverser cette courbe de la hausse des émissions de CO2 et donc de la hausse de la température, et encore parce qu'il y a des scientifiques qui disent qu'en fait, quand on agit maintenant, on obtient des résultats dans 20 ans et que ces résultats, ils ont un réel impact sur le système climatique qui est quelque chose d'immense et qui a donc une certaine inertie 20 ans plus tard. Donc en gros, attendre 2020 pour agir, c'est presque déjà trop tard. Et alors il y a un petit gadget qui a été sorti, c'est les émissions négatives qui utilisent des technologies de capture et de séquestration du CO2, mais Pauline en parlera plus tard, t'en parlera plus tard. Sauf qu'il y a un problème majeur, c'est que il n'existe pas à une échelle suffisante, c'est très coûteux, et en plus, c'est quand même la meilleure manière de rester dans le système actuel. Et ce qui est très inquiétant, parce que on va parler des négociations, on va vous faire flipper, c'est que les rapports du GIEC, le groupement international d'études sur le climat, pond tous les ans une série de scénarios très 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 nombreux pour voir en gros est-ce qu'on va les dépasser ou pas ces 2 degrés et comment on va faire, est-ce qu'il y a des scénarios qui nous permettraient de rester en dessous de ces 2 degrés. On va faire court, en gros il y a 400 scénarios parmi ceux-ci qui disent qu'on pourrait, on a une chance sur deux de rester en dessous de cette barre des 2 degrés, sauf que ça implique l'utilisation de ces émissions négatives et de ces technologies bien pourries dont Pauline nous parlera plus tard. Et pour clore le tout, il faut rappeler que on est à 2 degrés comme objectif et que 2 degrés c'est un objectif officiel pour les négociations climat, alors que les États insulaires qui vont être les premiers touchés demandent 1,5, et j'aurai l'occasion de vous dire plus tard que on est mal parti pour ça.
Alors, après ce portrait bien noir de l'état dans lequel notre planète est, moi je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une COP et l'historique qu'il y a derrière la COP 21. Une COP, c'est une Conference of the Parties, donc c'est l'organe suprême de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, ou un autre acronyme en anglais. Et donc c'est cette conférence, elle se réunit chaque année lors d'un sommet mondial où sont prises les décisions pour respecter les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Donc cette fameuse convention, elle a été créée en 1992 lors du sommet de Rio. Et voilà, sachant que le premier rassemblement avait eu lieu en 82. Donc c'est une convention universelle, c'est le principal traité international sur le climat qui reconnaît l'existence du changement climatique d'origine humaine. Donc cette convention, elle est ratifiée par 195 pays plus l'Union européenne, donc ça fait 196 parties. Les temps forts de toutes les COP qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, on a la COP numéro 3 en 97 qui aboutit à l'adoption du protocole de Kyoto, donc signé en 97, mis en vigueur en 2005. Et ça, ça concerne que les pays industrialisés, donc 55 pays industrialisés, qui représentent quand même plus de la moitié des émissions de CO2. Donc il y a certains pays qui ont respecté leurs engagements par rapport à Kyoto, il y en a d'autres qui n'ont pas rempli leurs objectifs, il y en a carrément qui ne l'ont jamais ratifié, comme les États-Unis, le Canada. Non, les États-Unis ne l'ont jamais ratifié, le Canada et la Russie s'en sont retirés. Et la Chine, qui est devenue maintenant le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, à l'époque, elle n'était pas concernée, donc elle n'a pas été invitée à la signature du protocole. Donc ce protocole, maintenant, il est obsolète, il expire en 2020 et il doit être remplacé par un nouveau texte qui, justement, fait l'objet de la COP 21. Ensuite, en 2001, on a la COP 7 de Marrakech et la création des premiers essais du marché du carbone. Alors ça, c'est un peu ce dont tu parlais, Mathieu, tout à l'heure. C'est des permis d'émission qui sont employés ou vendus à une partie, donc une entreprise, dont les émissions excèdent les quotas fixés. Avec la possibilité de mettre en place des projets pour générer des crédits carbone, donc des projets qui captent et qui maintiennent le carbone. Alors par exemple, toi, Mathieu, tu es une usine ultra polluante.
Oula.
Tu décides de mettre en place un petit mécanisme qui va restreindre tes émissions de gaz à effet de serre. Banco, tu vas avoir le droit à des crédits carbone que moi, par exemple, autre firme ultra polluante, je vais pouvoir acheter à un prix bien juteux. Donc toi, tu vas faire des bénéfices et moi, je vais avoir le droit de polluer de plus belle.
Génial.
Magnifique. Donc voilà, les entreprises, elles polluent bien pour ensuite être rémunérées pour réduire ces mêmes émissions. Ensuite, en 2009, on a la 15e conférence des parties, donc la COP 15, qui se tient à Copenhague, où là, bah, voilà, on la connaît. Il y a eu beaucoup de mobilisation, beaucoup de répression et d'arrestation aussi. Donc ça devait concerner les pays industrialisés et ceux en développement pour remplacer le protocole de Kyoto. Donc ça a été un échec total, cette COP. Il n'y a aucun engagement chiffré. Ça prône simplement la coopération pour atteindre un pic des émissions aussi tôt que possible. Enfin, bon, voilà.
Et ensuite, on a eu Cancun. Et Cancun, ça a un gros impact sur la COP 21 qui va avoir lieu en décembre, puisque c'est en 2010 à Cancun qu'on a décidé qu'on visait un accord universel à propos des 2 degrés en 2015 et que donc tous les États avaient intérêt à se mettre à sérieusement bosser dessus, puisqu'ils avaient 5 ans pour pondre une super révision. Et l'intérêt aussi qui a été formulé dès Cancun, c'était qu'il y avait un principe de révision régulière des engagements des États qui devaient ensuite augmenter au fil des années suite à des états des lieux.
Voilà, donc ensuite, après ça, bah, depuis 2011, toutes les COP qui se sont tenues après dans d'autres pays, elles ont toutes eu pour objectif de préparer cette fameuse COP 21 qui commence bientôt à Paris. Voilà. Donc, on fait une petite pause musicale.
On va écouter Manu Chao, Por el Suelo.
Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega.
Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Alors, on vient de présenter donc les COP des années précédentes, un peu l'historique, mais du coup, cette année, qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, cette année, c'est la 21e COP. Elle se tiendra au Bourget, en Seine-Saint-Denis, autour de Paris. On attend plus de 40 000 participants, avec les délégations de 196 États, la société civile, les entreprises, les ONG, les scientifiques, les collectivités territoriales, les populations autochtones, les syndicats et surtout, indispensable, les médias. Et de quoi on va parler ? En fait, ce qui se passe, c'est que à partir du 30 novembre, et ça va se finir le 11 décembre, à partir du 30 novembre, la France prend donc la présidence de la des négociations sur le climat et donc avoir en charge et la lourde responsabilité de s'assurer que tout va bien, sauf que tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, pourquoi ? Tout ne va pas bien parce que on a beaucoup de points d'achoppement entre avec les ONG, avec les pays les plus pauvres, même l'ONU note que c'est quand même pas terrible. Alors, on va essayer de découper le tout très clairement. Comme je vous l'ai dit, on a l'objectif officiel des négociateurs, c'est de respecter les 2 degrés d'ici 2100. On a à côté de ça des petits pays insulaires qui vont donc être les premiers à être touchés, qui demandaient eux 1,5 degré comme limite. Or, on sait déjà, les scientifiques l'ont dit, que c'est foutu. Et on va sur une trajectoire, si on continue avec le rythme de production actuel, qui va plutôt autour de 4-5 degrés. Et là interviennent les premières contributions publiques des États, puisqu'en fait, contrairement à d'autres négociations qui ont pu avoir lieu, d'autres COP, ici on a des engagements qui sont nationaux, volontaires et non contraignants. Donc j'espère que ça va tous vous rassurer. Et ces engagements, pour l'instant, ils n'ont pas tous été rendus publics. On a 146 contributions publiques qui ont été données et qui permettent donc d'évaluer un petit peu ce qui va se passer avec, grâce à une analyse de l'ONU. Or, si on prend en compte ces 146 contributions publiques, on arrive déjà à des émissions globales de gaz de 57 gigatonnes de CO2 d'ici 2030, alors que l'objectif est de rester à 35 gigatonnes de CO2 d'ici 2030. On arrive donc à des émissions globales en 2030 qui sont 15% supérieures à celles de 2010, alors que, évidemment, on avait prévu de les baisser, et de les baisser de 40 à 70% d'ici 2050. Et si on compte le stock de CO2, donc ce fameux budget carbone dont je vous parlais, en accumulé, on aura atteint 750 gigatonnes de CO2 en 2030, ce qui veut dire qu'on aura consommé en moins de 15 ans 75% du budget carbone qui est censé être disponible jusqu'en 2100. Et sans compter que ces contributions, comme j'ai pu vous le dire, elles s'arrêtent à 2030. Il n'y a absolument rien de prévu pour l'instant pour l'après 2030. Donc le réel résultat sur les températures, il est relativement inconnu, et ça nous sert juste à rappeler que plus on repoussera les efforts, plus dure sera la chute et plus elle sera coûteuse pour les États. À côté de cela, on a les ONG qui, elles, se plaignent que, Pauline, tu nous en parleras, les multinationales aient accès et puissent proposer des solutions pour le climat, ce qui paraît absolument terrifiant, dont Total et dont les compagnies pétrolières. Elles ont aussi été rejetées des derniers échanges qui ont été en octobre à Bonn et qui et pour lesquels le Japon a proposé d'exclure des réunions de négociation les ONG, ce qui s'est fait évidemment. Et surtout, elles contestent le fait que finalement les négociations se font peu dans le cadre des réunions officielles de la COP21 ou pré-COP21, mais plutôt dans une espèce de bataille diplomatique sourde et discrète à chaque rendez-vous alternatif à laquelle elles ne participent évidemment pas, comme les réunions du G20 ou des réunions régionales et ainsi de suite. Et l'ONU n'est pas content. Les ONG ne sont pas contentes et les pays pauvres ne sont pas contents, parce que les pays pauvres, il y en a 134 qui sont regroupés autour du G77. Et alors eux, c'est la totale, parce que ils sont membres des négociations, et pourtant ils ont récemment élevé de la voix en parlant carrément d'un apartheid, puisque les derniers préaccords qui ont été publiés ne prenaient tout simplement pas en compte leurs propositions. Il y a aussi la question du fonds d'aide pour les pays pauvres qui doit les aider à outrepasser le problème du changement climatique et qui doit être alimenté par les pays riches. On parle du fonds vert pour le climat, et ce fonds vert, il a été décidé à Copenhague en 2009 pour un objectif de 100 milliards de dollars d'ici 2020. Et en plus, ces 100 milliards doivent être un plancher qui doit être réévalué régulièrement avec les pays du Sud pour permettre de les aider dans leur effort sur le réchauffement climatique. Or, ces 100 milliards, ils sont pas trouvés. C'est impossible de savoir si c'est des dons ou des prêts. C'est déjà largement insuffisant. Et en plus, les pays pauvres contestent le fait qu'ils soient alimentés par des financements privés, ce sur quoi insistent les pays riches, qui disent que, attention, c'est la crise, on va pas pouvoir vous donner uniquement de l'argent public, donc il faudra compter là-dessus. Et enfin, il y a un autre problème qui est soulevé par les pays pauvres, c'est que finalement la responsabilité des pays dans le réchauffement climatique, il n'est pas égal. Il y a des pays industriels qui ont commencé à polluer bien avant, qui polluent bien plus et qui ont les capacités financières de réduire bien plus drastiquement leur impact sur le climat. Et pourtant, on est très loin de cette égalité face au climat et face aux promesses. Par exemple, on peut dire que le Japon ne s'engage qu'à 10% de ce qu'il le devrait sur les engagements pour la COP21, les États-Unis 20%, l'Union européenne 20%, et donc il y a un problème criant sur ce point-là également.
Eh ben, c'est beau tout ça. Et alors du coup, on peut se poser la question de savoir, mais c'est qui organise cette COP et qui est-ce qu'il y a derrière, parce que vu les résultats. Alors je suis allée regarder un petit peu le site de la COP. Et j'ai juste regardé un peu les partenaires fondateurs comme ça et les autres partenaires et j'ai relevé quelques noms. Donc c'est vraiment quelques-uns. Donc on a Renault-Nissan, on a EDF, on a l'AFB, l'Association française des banques, Engie, LVMH, Michelin, BNP Paribas, parenthèse champion de l'évasion fiscale quand même, et c'est une des banques qui investit le plus dans le charbon, Google, AXA, Air France, voilà. Du coup, on dirait bien que les grandes entreprises, elles ont des choses à dire et surtout qu'elles ont un peu changé leur fusil d'épaule et qu'elles essayent de faire partie de la solution, non ? C'est un peu ça.
Ça y ressemble.
Et du coup, toi, tu as eu la chance de pouvoir rencontrer, interviewer un auteur, l'auteur des saboteurs du climat, Nicolas de la Cazinière.
Exact. Et on va pouvoir écouter Nicolas de la Cazinière.
Business comme d'habitude. Ils ont changé complètement. J'ai assisté à un colloque au mois de mai à l'UNESCO à Paris qui s'appelait Business and Climate Summit. C'est en France, mais il cause anglais. Et là-dedans, il y avait effectivement tous les... Il y avait le PDG de Total, il y avait des gens de Engie, la GDF Suez, enfin bon, tout le monde était là. Et leur discours était de dire on est peut-être une partie du problème, mais on est une partie de la solution. Et après, dans un jeu de retournement des mots, ils arrivaient à dire qu'ils n'étaient ni pessimistes, ni optimistes, mais activistes. Alors quand on entend des patrons dire qu'ils sont activistes, on se dit, bon voilà, on est dans un phénomène classique de récupération des mots pour les retourner contre les gens qu'on cherche à exterminer. Cette idée d'être partie du problème, partie de la solution, s'accompagne d'un axe stratégique en disant la transition énergétique, on va faire du business avec, on va gagner un maximum de pognon. Voilà, ce qui n'était pas rentré dans leur stratégie auparavant. Donc là, ils ont ça, mais ça, c'est un peu pour la façade. Parce que en fait, ils vont pas faire. Enfin, c'est pas l'axe prioritaire de leur profit. L'axe prioritaire, c'est de maintenir le plus longtemps possible l'extraction du charbon, du pétrole, du gaz, voire des nouveaux gaz dits non conventionnels, gaz de schiste, sable bitumineux et toutes ces saloperies-là, pour en tirer le maximum de profit le plus longtemps possible.
Alors, dans les partenaires aussi, on a notamment on a Michelin. Alors, pour reprendre, c'est un autre exemple de ce qu'on vient d'entendre, de ce que décrit Nicolas de la Cazinière. Michelin et les fameux voilà et leur fameux crédit carbone. Donc les crédits carbone, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est mettre en place des projets qui nous dédouanent un peu de nos pollutions. Donc Michelin, ils soutiennent des projets de restauration de mangroves au Sénégal et ils replantent des fruitiers en Inde et hop, voilà, on leur donne des crédits carbone, donc en gros on leur donne le droit de polluer un peu plus. On a WWF aussi qui est un des partenaires de ce qu'on appelle Solution COP21. WWF, ils sont pas hyper propres non plus, on le verra un peu plus tard avec une autre partie de l'interview. Alors, Solution COP21, qu'est-ce que c'est ? C'est un des événements majeurs de la COP. Ça se passe du 4 au 10 décembre et c'est le titre en fait officiel, c'est Expérience Climat, l'exposition des solutions pour changer d'époque. Alors, c'est lancé en 2014. C'est un dispositif donc de valorisation des solutions pour le climat créé en vue de la COP21. Donc des beaux titres et des grands mots. Cette initiative portée par le Comité 21 et par le Club France Développement Durable. Alors forcément, quand on lit ça, eh ben on va aller creuser un petit peu c'est qui le Comité 21 et c'est qui ce Club France Développement Durable. Alors le Comité 21, donc, il a été créé en 92. C'est un réseau d'acteurs engagés pour mettre en œuvre le développement durable en France au sein des organisations et des territoires. Donc à première vue, tout va bien. Enfin, je suis quand même allée voir c'était qui les administrateurs. Et alors là, on trouve des petites pépites comme Kedge Business School, Vinci et la SNCF. Bon, moyen. Ensuite, le pompon, c'est le Club France Développement Durable, où là, vraiment, ça devient plus intéressant. Donc, ça a été lancé à l'initiative du Comité 21. Donc, c'est un grand rassemblement de réseaux et de structures. Alors là, je cite, qui vise à échanger, co-construire, promouvoir les contributions des acteurs de la société civile française aux grands rendez-vous internationaux du développement durable. Pareil, des grands mots. Et alors là, on va fouiller derrière et on trouve des choses comme le MEDEF. Alors, dans le manifeste patronal, il arbore un slogan « Pour que la Terre garde ses couleurs, les entreprises s'engagent pour le climat ». Petite précision, le président du MEDEF Paris, c'est Chilansky, c'est un ancien d'ExxonMobil et il est président du Centre d'hydrocarbures non conventionnels, un lobby promoteur du gaz de schiste. Tout va bien. Ensuite, on a EDF et Engie qui... soit dit en passant, possède 46 centrales de charbon dans le monde. Hein. Donc, c'est 333 millions de tonnes de CO2 en 2012. On a aussi McDo France, Veolia, Suez Environnement, Vinci, Avril. Donc, Avril, c'est le biodiesel, le bioéthanol, tous ces bio machins. Et l'association, elle compte plus de 2000 adhérents. Donc, parmi ces adhérents donc, que je viens de citer, on a aussi ExxonMobil, Eon France, donc la centrale de biomasse à Gardanne, c'est Eon. Et on a Total aussi, donc c'est quand même Total, je ne sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est un des plus gros pollueurs de la planète. On a Veolia, on a Bouygues Énergie, voilà. Et ensuite, pour couronner le tout, dans les partenaires de cet événement, donc Solutions COP21, là, cette semaine de Solutions, on a des gens comme Coca-Cola, Renault, Nissan et Bioéthanol. Voilà. Donc... là, on peut peut-être commencer à parler du concept de lobbying hein, et continuer. Du coup, il y a l'interview, la suite de l'interview de Nicolas de la Casinière qui va nous parler de Total.
Alors, le lobbying, il va s'exercer à tous les endroits où il peut se prendre des décisions législatives, réglementaires. Donc, ça va être les parlements des États, le Parlement européen, le Sénat américain, donc on a pu voir transiter comme ça des financements de multinationales dont les sièges sont en Europe vers le Sénat américain pour que convaincre avec un peu du fric à la clé certains sénateurs de faire opposition à toutes les mesures qui allaient restreindre le business. Voilà. Donc ça c'est constant. C'est pas toujours très apparent et pas toujours facile à rendre objectif la relation de cause à effet entre l'argent misé dessus et le résultat. Mais quand même, ça marche. Et il y a aussi un truc qui est assez pervers. Par exemple, les grands géants des énergies fossiles, on va prendre un au hasard, Total, par exemple, arrivent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, mais de manière presque crédible. C'est-à-dire, Total a racheté, il y a quelque temps, une entreprise californienne de photovoltaïque, et à ce titre-là est devenu numéro 2 mondial du solaire. Total, numéro 2 mondial du solaire. Bon, donc pour eux, c'est un peu gadget, mais pour la façade, c'est très intéressant. À ce titre-là, ils sont rentrés, puisqu'ils pèsent un poids certain et qui est indéniable, au sein de la Fédération des entreprises des énergies renouvelables en Europe. Et ça leur a permis de faire infléchir les objectifs de cette fédération, qui eux étaient logiquement pour développer au maximum les énergies renouvelables. Et maintenant, le discours a changé sous la pression de cet entrisme, ce noyautage, qui consiste à dire maintenant, ce qu'il faut, c'est des énergies renouvelables et du gaz. Parce que le gaz est réputé être l'énergie la moins sale du trio pétrole-charbon-gaz. Et on a perverti c'est un petit exemple, mais on a perverti une instance qui est supposée avoir un discours clair sur une alternative et au nucléaire et aux énergies fossiles les plus dangereuses. Et en fait, on l'a réorienté vers son business, qui est effectivement, bah oui, ils sont sur le gaz, donc ils vont pas se gêner pour en faire la promotion.
Alors, Donc on va faire juste une petite parenthèse avant de continuer sur ces fameuses fausses solutions et ces notions d'éco-blanchiment, parce que là on vient bien de parler un peu d'éco-blanchiment. Petite parenthèse sur quand même notre gouvernement et la société civile. Il faut quand même mentionner que la société civile, elle n'est pas du tout la bienvenue à la COP21. Alors, le gouvernement français, il a rétabli temporairement les contrôles aux frontières intérieures du 13 novembre, soit 2 semaines avant l'ouverture de la COP. Et ça prendra fin le 13 décembre, 2 jours après la clôture des événements. Donc, cette mesure d'exception dans la loi, en fait, elle ne peut être prise qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. Alors, entendu sur je ne sais plus quel média, c'est pour protéger les manifestants pendant la COP des Black Blocs. Voilà. Enfin, c'est aussi un véritable parcours du combattant pour les délégations venant des pays du Sud pour obtenir leur visa. Donc, en plus de ce fameux apartheid dont tu parlais, où on ne tient pas du tout compte de leurs propositions, on leur refuse des visas. Et on a, par exemple, le président d'Attac Togo qui vient de se voir refuser son visa. Plus, évidemment, tous les militants qui galèrent à avoir les leurs. Il y a aussi la question du logement. Il y a 40 000 personnes qui sont attendues depuis décembre dans la capitale. La coalition Climat 21, elle demande depuis des mois plus de 20 000 places d'hébergement. Et pour le moment, on nous en assure à peine 1 000 places. Et encore, apparemment, la ville de Paris, elle traîne les pieds. Pourtant, on sait que les logements vides ne manquent pas, hein, comme dans toutes les grandes villes. Et puis, une COP, ça fait des années, c'est la 21e, hein, donc ça fait 21 ans qu'ils en font. Donc, c'est pas comme s'ils ne savaient pas qu'il y allait avoir 40 000 personnes qui allaient débarquer. Autre nouvelle aussi, qui est récente, c'est que le gouvernement vient d'approuver la reprise des travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Et Hollande qui dit qu'il va s'engager pour le climat pendant la COP, tout va bien.
Et du coup, on va fêter ça en écoutant Dubamix, notre dub des Landes.
Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent bah, pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà.
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes.
Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares.
C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros.
D'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries.
Plusieurs milliards.
Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés.
Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action.
Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens.
Mr. Farmer, Mr. Farmer Man. besoins du chantier de l'aéroport.
Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour.
Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD.
Nous n'avons rien à négocier avec ceux qui nous construisent ce monde de merde.
Alors, en plus des grands projets inutiles, le gouvernement et l'ONU, là, ils laissent donc toutes ces fameuses entreprises nous proposer carrément des solutions concrètes, pas juste être partenaire. Et donc, ce dont on parlait avant la petite parenthèse là, sur la société civile et de Bamix, c'est donc Solution COP21, donc tout le programme là, dont on a parlé. Il présente vraiment des solutions concrètes. Et donc, on peut retrouver sur Internet la plateforme Solution Climat, donc avec un hub des solutions. Donc, c'est une plateforme où entreprises, collectivités, associations, ONG, centres de recherche et formation peuvent publier leurs solutions. Donc, il y en a une quantité infinie, hein. C'est classé en différentes rubriques, se loger, s'alimenter, se déplacer, travailler, maîtriser l'énergie. Alors, je suis allée me promener, puis j'ai relevé quelques exemples. Parmi les solutions, nous avons le compteur Linky de RDF. Hein. Alors, ça, on sait que c'est quand même sujet à de grosses controverses, surtout en termes de risque de santé. Ensuite, pas mal aussi, on a McDo. Et sa dynamique collective pour une agriculture durable. Donc eux, ils veulent s'engager à réduire l'impact environnemental en amont de leur filière. La solution, elle est mise en place avec un réseau de plus de 30 fermes et parcelles de référence, des agriculteurs et des éleveurs volontaires qui vont produire pour McDo. Et donc, ils vont innover et tester des nouvelles pratiques, soi-disant plus respectueuses de l'environnement. Alors, je me permets le soi-disant, parce que dans les partenaires de la solution, on a Cargill, son fournisseur de poulet, qui est une énorme multinationale, qui, entre autres, fabrique, en plus de fournir des poulets à McDo, de l'alimentation pour les animaux à base d'OGM et d'huile de palme de source plus que douteuse. Et c'est aussi Cargill qui est responsable du scandale du plastique retrouvé dans des nuggets au Japon. Miam. On a les mousquetaires, le groupe Les Mousquetaires, donc Intermarché, et leur biodiesel fabriqué à base de graisse animale impropre à la consommation. Hein, donc voilà, tout va bien. Il y a L'Oréal aussi qui propose de produire son maquillage sans emballage, à réduire à zéro ses émissions de CO2. Enfin, on a un groupement qui promeut le super éthanol et le bioéthanol. Alors, je cite, un carburant qui fait le plein de bénéfices. Ce carburant allie à la fois le bénéfice environnemental et le bénéfice prix. Et ensuite, on a le bioéthanol, le carburant made in France. C'est ça, consommer bio et local, hein, comme on voyait dans l'interview. Ils reprennent le jargon de leurs opposants. Alors, dans ce projet bioéthanol, superéthanol, là, ça regroupe quand même les producteurs de betteraves, de céréales, enfin toutes les matières premières, les industriels du bioéthanol et les pétroliers et distributeurs, forcément, et puis les constructeurs automobiles. Alors, le groupe EDF, là, c'est le pompon. Eux, ils proposent même pas de solution. Et alors là, je cite aussi, EDF présente le bilan énergétique le moins carbone des grands producteurs mondiaux de l'électricité, prouvant qu'il est possible de produire dans de bonnes conditions de compétitivité les trois quarts de son électricité sans émission de CO2. Ben oui, parce que tout simplement EDF et Engie, hein, leurs centrales de charbon, ils les ont à l'étranger. Donc les fameuses 46 centrales de charbon qui produisent autant de CO2 que le Vietnam ou 100 fois plus que le Togo. On a Veolia aussi, le nom de sa campagne c'est « Ressourcer le monde ». Et enfin, alors là, c'est hors plateforme. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu ça sur la plateforme, mais on a Vinci qui sponsorise les jardins de Cocagne. Hein, donc, il favorise, c'est les jardins bio.
C'est des jardins bio qui favorisent l'insertion professionnelle dans des jardins.
Et eux, ils, carrément, ils ont utilisé des délaissés d'autoroutes pour créer certains de ces jardins. Donc,
ça permet de faire des jolies photos si on tient la caméra dos à l'autoroute.
Et donc, on va voir aussi Michelin, qui est pas mal dans son genre aussi, avec l'extrait de l'interview.
Il y a un exemple qui concerne Michelin, donc fabricant de pneus. La fabrication d'un pneu se fait avec à peu près un peu moins de caoutchouc d'origine EVA naturelle, et le reste c'est des produits de synthèse du pétrole. Donc on va dire le pneu c'est déjà un concentré de produits qui ont un impact sur le climat, puisque l'EVA se plante en faisant table rase avant, donc c'est la déforestation, surtout dans les régions de l'Indonésie, avec des ravages contraires au moindre objectif de réduire d'atténuer les effets du gaz à effet de serre. Michelin a lancé un programme, par exemple, en Indonésie, en disant « Mais attendez, nous on est des bons élèves, on n'est pas des salopards, on va replanter 88 000 hectares pour contrer le reproche qui nous est fait de participer à la déforestation. Sauf que sur ces 88 000 hectares, qui paraissent beaucoup comme ça, mais c'est assez peu dans la réalité géographique du secteur, il y en a la moitié qui est plantée en EVA, donc qui les intéresse directement. Et puis le reste qui est un espèce de gadget de développement social, agricole, local, pour obtenir l'acceptabilité de ce programme. Le tout étant patronné par une ONG environnementale qui s'appelle WWF, qui est celle qui est considérée comme la plus, le terme est peut-être un peu fort, mais la plus collabo de ces ONG. Donc il y a un espèce de label « on fait le bien ». On le met en avant, même si c'est peanuts. Et en plus, c'est un peu mensonger, puisque la part d'approvisionnement en EVA, enfin en caoutchouc naturel, par Michelin, est en train de se réduire. Ce qui veut dire qu'on met un coup de projecteur sur un truc qui est très marginal, et on continue à se servir sur le marché mondial de l'EVA qui participe à la déforestation un peu partout, parce que c'est des sous-traitants et donc c'est pas Michelin directement. Donc là c'est un phénomène assez classique de dire nous on est propre, tout en disant mais on va chercher chez les plus dégueulasses, mais ça c'est pas nous quoi, puisque c'est le marché, on fait ce qu'on peut et on a besoin d'approvisionner.
Et voilà, donc pour couronner le tout, donc l'ensemble de ces super solutions qu'on vient d'entendre, en tout cas celles qui sont recensées sur la plateforme, là, elles vont donner lieu à une remise des trophées solutions climat pour les entreprises. Donc le 2 décembre, pendant la COP21, les lauréats ils seront mis à l'honneur aussi le 4 décembre lors de la Winners Conference au Grand Palais, dans le cadre donc de solutions COP21. Donc ça, c'était pour les solutions qui sont affichées et promues officiellement et publiquement par la COP, ce qui est facile d'accès pour les citoyens quand on va sur Internet. Dans le programme, par contre, on trouve la Breakthrough Night, donc une nuit pour l'innovation du climat. Alors là, par contre, j'ai eu beau retourner le truc dans tous les sens, c'est impossible d'avoir plus d'informations. Il faut s'inscrire, c'est payant, il faut être membre de l'industrie ou d'un laboratoire ou il faut être un média. Et du coup, ça me fait penser, quand je lis innovation du climat, ça me fait penser à une solution qui est privilégiée par les grands industriels de ce monde, c'est la géo-ingénierie. Alors, qu'est-ce que c'est que la géo-ingénierie ? C'est un ensemble de dispositifs technologiques qui visent à réduire le réchauffement global de la planète et à atténuer ses effets par des interventions à grande échelle sur le système climatique. Donc, dans leur jargon, on parle de gestion du rayonnement solaire, GRS. ça existe depuis une cinquantaine d'années et ça a surtout pris son essor après l'échec de Copenhague. Donc on a deux principales thématiques de la géo-ingénierie. On a la modification de la composition chimique des océans en les enrichissant en fer pour qu'il y ait plus de plancton, parce que le plancton, ça capte et ça garde le carbone. Merci, le plancton. Ensuite, deuxième solution, c'est un peu moins mignon, c'est disperser des aérosols à base de soufre dans la stratosphère pour empêcher une partie de la chaleur du soleil d'atteindre la surface de la planète. Ça a l'air complètement surréaliste, mais c'est bien vrai. C'est l'option Pinatubo, qui vient de l'explosion du volcan Pinatubo en 91. Explosion à la suite de laquelle, en fait, on avait constaté un rafraîchissement global des températures mondiales. Donc ils se sont dit, bah, on va reproduire l'effet d'un volcan. Normal. Encore mieux, un exemple de dépôt de projet pour cette thématique, c'est le Stratos Shield, donc littéralement bouclier stratosphérique, qui a été breveté par Ken Caldera. Donc ce monsieur, il est associé à Bill Gates au sein d'une société qui a fait breveter déjà plusieurs autres technologies. Alors ce bouclier, ça consiste en des tuyaux suspendus à des ballons dirigeables dans le ciel, permettant de disperser des aérosols soufrés. Et il précise quand même, ce gentil monsieur, aérosol issu du traitement des sables bitumineux de l'Alberta. Donc sable bitumineux, c'est une manière d'extraire du pétrole brut. Ça laisse, c'est catastrophique écologiquement parlant. Et l'Alberta, c'est une province du Canada. Et bon, il y a énormément de gens mobilisés parce que c'est vraiment, vraiment, mais vraiment catastrophique. Donc voilà, donc les aérosols seraient issus du traitement de ces sables. Hein, on fait de l'économie circulaire. Tout va bien.
Et du coup, on va pouvoir parler des vraies solutions, mais d'abord, on va écouter Zoufris Maracas, la fée électricité.
Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêts à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller, vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire du nom de centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour 100 millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité, pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire, des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère, des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre.
Alors jusque-là, rien de tout ça n'était très joyeux, donc on va quand même essayer de trouver des vraies solutions, parce que entre les multinationales et les pays riches qui veulent pas écouter les pays pauvres, jusque-là on avait un tableau quand même pas terrible. Mais alors, comme vraie solution, qu'est-ce qu'on peut trouver? La première vraie solution, c'est de désinvestir des énergies fossiles, tout bêtement, comme le demande l'organisation 350.org. C'est à peu près le seul moyen, en maintenant les 80% des ressources fossiles dans le sol, qu'on pourra ne pas toucher notre fameux budget carbone d'ici 2100. Et puis... c'est aussi de mettre fin aux grands projets inutiles et imposés. Hein. Merci le gouvernement pour le relancement de Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi le fait de mettre en place des alternatives concrètes. Alors là, dédicace à Alternatiba qui promeut les alternatives concrètes partout en France et en Europe à travers des festivals. Et notamment sur la question de l'agriculture, l'exemple de l'agroécologie qui permet en plus de ses vertus naturelles de capter du coup le carbone dans le sol sans faire appel à des incroyables jets de fer dans les océans. C'est quand même pas mal. On a des solutions plus institutionnelles, c'est Desmond Tutu, l'archevêque et ami de Nelson Mandela et grand combattant de l'apartheid en Afrique du Sud, qui rappelle qu'on est encore maintenant face à un apartheid sur la question du climat et qui lui en appelle au droit international avec des outils comme le Tribunal international de la nature ou des nouveaux règlements internationaux pour faire respecter, pour qu'il y ait un impact pénal pour les multinationales qui touchent au climat, et notamment en introduisant la notion d'écocide et de crime climatique. Et on va nous dire qu'on a oublié les énergies renouvelables. Et nous, on va répondre que les énergies renouvelables, c'est évidemment quelque chose qu'il faut développer pour compenser si on bascule et qu'on quitte les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, et fissiles, le nucléaire, le fameux nucléaire, qui d'ailleurs n'est pas trop abordé en amont de cette COP21. Sauf que ça va pas être suffisant, et en plus, il faut rappeler que pour construire des énergies renouvelables, il faut de l'acier et des tonnes de métaux rares, ce qui est le plus visible dans les panneaux photovoltaïques, et que l'extraction de ces métaux, elle est de plus en plus difficile puisqu'on a déjà récupéré la partie qui était la plus facile, que ça demande en transformation des litres et des litres d'eau pour devenir utilisable, que c'est très difficilement recyclable et récupérable sur les éléments de photovoltaïque qui seraient, on va dire, à jeter ou qu'on voudrait recycler. Et donc en fait, avec Pauline, on a plus ou moins trouvé une seule solution. C'est
la solution.
C'est la décroissance, en fait. Et puisqu'on a parlé climat, on va finir l'émission sur une petite annonce. On vous invite tous à venir crier, chanter et danser avec nous à la Marche mondiale pour le climat le 29 novembre à Marseille, à laquelle convergeront des mouvements de tout PACA.
C'est à 13h.
À 13h, place Bargemont, et ensuite on décollera pour aller se balader tous ensemble. Et voilà, c'était La Gueule Ouverte, l'émission d'Attaque Marseille. Et aujourd'hui, c'était sur la COP21 avec Mathieu et Pauline. Et on se quitte.
Salut.
Au mois prochain.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.